Donc on va prendre 1 Corinthiens 12. Il est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la loi, par le même Esprit, la foi, pardon, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Donc, on poursuit dans cet épître aux Corinthiens. L'église de Corinthe était une assemblée qui avait tous les dons. C'est ce que Paul dit au début de l'épître, il dit « Mais vous avez tous les dons, il ne vous manque aucun don ». C'est merveilleux ça, avoir tous les dons. Mais après avoir dit cela, Paul va commencer à reprendre les Corinthiens. Il a quand même pas mal de reproches à leur faire tout au long de son épître. Et c'est une église où il y avait tous les dons et en même temps il y avait tous les défauts presque. Donc tous les excès, les manquements. Donc il y avait le meilleur et le pire. Ça ne vous fait pas penser un peu à nous, hein ? Il y a le meilleur, Christ. Et puis il y a aussi parfois le pire, hein, la chair. Hein. Qui est en nous hein, et qui se manifeste parfois. Et si le but dans nos cœurs, eh bien, c'est que Christ croisse et que nous nous diminuions, que tout ce qui est de l'homme, en fait, diminue, s'efface, eh bien, c'était un peu pareil dans l'église de Corinthe. Il fallait que les manifestations charnelles, les excès, les chutes, eh bien, disparaissent et que, eh bien, ce soit que des manifestations pures, spirituelles. Or, à Corinthe, il y avait un désordre, il y avait un dysfonctionnement dans cette assemblée, notamment en ce qui concerne la question des dons spirituels. Paul commence par dire, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Littéralement, il dit, « Pour ce qui concerne les spirituels. » En fait, le mot « don » n'est pas dans le grec, mais certains traducteurs l'ont ajouté pour la compréhension du texte. D'ailleurs, Darby a dit, lui, « Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles. » Intéressant, « manifestations spirituelles ». Il y a un double sens à « manifestation ». Il peut y avoir des manifestations spirituelles bonnes, et puis il peut y avoir des manifestations spirituelles qui ne sont pas bonnes du tout. Qui sont aussi spirituelles, mais qui ne sont pas bonnes du tout. Et c'est ce qui se passait dans cette assemblée de Corinthe. Ces chrétiens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, ils ont vécu des expériences extraordinaires. C'est ce qu'on vit quand on est en Christ, on vit des expériences extraordinaires. Mais en même temps, eh bien, il y avait des expériences qui étaient peut-être plus mystiques, extatiques, qui étaient suspectes. Alors Paul dit, verset 2, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. » Et j'aimerais juste vous lire un petit commentaire là, parce que je ne saurais pas le dire mieux. C'est un commentateur qui s'appelle Bittlinger, et il dit que ce mot grec, entraîner ici, donc j'imagine en prenant toute la littérature grecque, était un terme technique du ravissement extatique dans les cultes à mystère. L'initié était en quelque sorte saisi est psychologiquement violée par les forces démoniaques. Donc ça, c'était dans les cultes païens, hein, où les fidèles y allaient, et il y avait, voilà, il y avait des présences démoniaques, hein, et ils étaient saisis, voilà, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait, j'ai lu aussi des paroles inintelligibles qui se prononçaient, hein, il y avait plein de choses, des manifestations. Alors Paul met en garde les Corinthiens, il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance concernant les manifestations spirituelles ou les dons spirituels. Et oui, si on a reçu le Saint-Esprit, et donc on entre dans une vie qui est spirituelle, et une relation, il y a des choses qui se passent avec Dieu par son Esprit, mais ça n'a rien à voir avec les manifestations occultes qui pouvaient avoir lieu dans les temples païens. Alors il dit, verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc apparemment, au vu de ce qu'il écrit, dans l'assemblée, eh bien, il y avait aussi des manifestations diaboliques. Il y avait des démons qui étaient en train d'agir aussi dans certaines personnes. C'est le diable qui blasphème Christ et qui rejette Christ. Les démons, bien, blasphèment et maudissent. Je pensais à la bête, hein, vous savez, dans l'Apocalypse, il y aura plein de noms de blasphème sur elle. Parce que, eh bien, voilà, le diable rejette Jésus-Christ et les mauvais esprits rejettent Jésus-Christ. Paul dit donc que c'est la reconnaissance de la seigneurie de Christ, il est Seigneur, qui peut les aider à avoir du discernement. Qui reconnaît Jésus comme Seigneur? Alors bien sûr, si vous prenez une personne, un homme, il peut reconnaître Jésus comme Seigneur, pardon, il peut prononcer le mot Seigneur, sans pour autant être forcément convaincu de la Seigneurie de Christ, sans être sauvé, sans avoir Jésus-Christ, puisqu'il est dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume. Donc, ce n'est pas simplement le fait de prononcer le mot « Seigneur ». Mais en fait, c'est par rapport à ce que vivaient les Corinthiens, là, où, eh bien, il y avait apparemment des personnes qui étaient comme possédées et qui commençaient à blasphémer et qui étaient incapables de dire « Jésus-Christ est Seigneur ». Alors, eh bien, Paul leur dit « Mais s'il y a du blasphème, soyez assurés que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Et si vous l'entendez, eh bien, dire « Jésus est Seigneur », alors, eh bien, probablement, eh bien, la personne a reconnu, eh bien, Jésus vraiment comme Seigneur. Donc, Paul leur donne un élément pour leur donner du discernement par rapport à tout ce qui se manifestait, tout ce qui était dans l'Église de Corinthe. Donc ça, c'est simplement une petite introduction avant d'entrer dans son sujet, les dons spirituels. Une autre difficulté concernant les dons à Corinthe, c'est qu'ils s'étaient apparemment tous mis en tête qu'il fallait tous avoir le don du parler en langue. Alors on se souvient qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu donc sur ses disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, dit le livre des Actes. Donc les uns louaient Dieu en partent, les autres louaient Dieu en mède, les autres louaient Dieu en élamite, en phrygien, en égyptien, en latin, voilà, dans toutes les langues connues de l'époque, eh bien, ils se mettaient à louer Dieu, alors que c'était des Juifs qui étaient de Judée et qui n'avaient jamais appris toutes ces langues, et c'était ça, eh bien, extraordinaire, le miracle que Dieu a permis. Ça, c'est le don du parler en langue, la capacité à parler miraculeusement une langue que l'on n'a jamais apprise. Mais les Corinthiens s'étaient mis en tête que, voilà, ils pensaient que, mais il faut qu'on parle tous en langue, parce qu'en tout cas, ils le désiraient, parce que peut-être pour eux, c'était un don qui était, voilà, un peu glorieux, voyant, hein, manifestation, et voilà, ça entraînait vraiment la surprise, et c'était très utile selon leur point de vue, alors ils le désiraient tous. Et puis on imagine donc avec cette présence démoniaque, à cela venait s'ajouter eh bien, plein de choses aussi bizarres, mystiques, non inspirées, en sorte que ça devenait une vraie cacophonie dans l'église de Corinthe. Alors Paul va replacer le don du parler en langue à sa bonne place dans ce que Dieu avait prévu pour son Église. Le don du parler en langue n'était pas le don par excellence, c'était un don parmi tous les autres dons et il n'était pas destiné à avoir tous ce don. Ça, c'est un peu le thème central si on lit 12, 13 et 14, les trois chapitres. Il y a ces questions, à quoi servent les dons ? Quel Paul répond ? Y a-t-il un don supérieur devant un autre ? Qui opère les dons ? Est-ce que tous les dons spirituels étaient destinés à être exercés pendant toute la période de l'Église ? Est-ce qu'il y a des exceptions ? Comment exercer son don d'une manière libre, mais ordonnée ? Il va répondre à toutes ces questions. Mais il commence ce sujet par une présentation de cette vérité des dons spirituels. Peut-être avant d'aller plus loin, c'est bien de se poser la question, mais qu'est-ce qu'un don ? Paul dit au verset 4, il commence en disant « Il y a diversité de dons ». Le mot qu'il emploie ici, c'est « charismaton », qui veut dire donc « un charisme », on peut le traduire comme ça. Un charisma, c'était un mot qui était employé pour quelque chose qui était donné gratuitement. Un charisma, c'est quelque chose qui est donné gratuitement. On a retrouvé un vieux papyrus, et dans ce papyrus, il y avait un homme qui avait fait un inventaire de ses biens qu'il avait reçu durant toute sa vie ou qu'il avait acheté durant toute sa vie. Il a fait deux colonnes. Il a fait une colonne pour les biens qu'il avait achetés et il a fait une colonne qu'il a appelée apocharismatos, c'est-à-dire tous les dons qu'il avait reçus gracieusement, gratuitement, comme un don, comme un cadeau. Et donc Dieu a choisi de faire des dons, des cadeaux, gratuitement, à tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, et l'acceptent dans leur cœur. Donc, on a tous des charismes, on a tous des dons que Dieu nous donne. Donc, c'est une révélation, hein, peut-être ce matin pour vous, vous êtes tous charismatiques. Merveilleux, hein ? Étonnant, hein ? On est tous charismatiques, on a tous des charismes, on a reçu des dons, que ce soit un ou que ce soit plusieurs. Parfois, eh bien, on en voit plusieurs dans une personne, parfois on en voit plutôt un. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est Dieu qui est glorifié dans toutes ces choses. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et là, on voit ici une diversité et une unité. D'abord, l'unité, on la trouve dans la personne de la divinité. Certains remettent en question l'idée de la Trinité. Mais ici, vous avez un passage. C'est sûr, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais ici, il y a un passage qui révèle, qui montre hein, cette unité hein, des trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un même esprit, un même Seigneur, un même Dieu qui agissent dans une même direction pour bénir, pour faire du bien à ses enfants. Et puis il y a cette diversité, donc diversité dans ce que Dieu choisit de donner ou de faire en nous et au travers de nous. Il y a les charismas dont nous venons de parler, donc ces dons gratuits, ces capacités qui sont accordées gracieusement. Donc ça c'est le premier, les dons gratuits, c'est les charismas, hein, capacités accordées gratuitement. Ensuite il parle des ministères, les diaconia, qui sont des services ou des offices. Donc Dieu établit, confie des tâches aux uns et aux autres, donc les diaconia. Et puis ensuite il dit les opérations, et c'est du mot energema, je vais penser au mot énergie. Et donc, Dieu agit, Dieu déploie, Dieu produit quelque chose au travers de nous et par sa grâce. Et c'est le même Dieu qui fait toutes ces choses en nous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pourquoi Dieu répand ses grâces, ses dons, ses charismes sur ses enfants? C'est pour l'utilité du corps tout entier, pour l'utilité de l'Église de Jésus-Christ. Donc le but, c'est enrichir les frères et sœurs et l'Église. Chaque membre reçoit quelque chose pour enrichir l'Église. Et on ne reçoit pas les dons spirituels pour notre propre plaisir ou pour notre bien personnel, même si on en est béni en l'exerçant, hein, c'est sûr. On en est au bénéfice quand on a un don. Mais néanmoins, on ne le reçoit pas pour soi-même, on le reçoit pour les autres, pour donner aux autres. Et c'est certainement là peut-être une différence que l'on peut faire entre les dons naturels et les dons spirituels. On reçoit des dons naturels à la naissance, hein. À travers des gènes, hein, il y a quelque chose qui passe, il y en a qui sont doués pour la musique, qui sont doués pour les arts, qui sont doués pour les mathématiques, qui sont doués pour d'autres choses. Hein. On a des facilités naturelles. Ces facilités naturelles, certains les utilisent pour en faire leur métier même. Il y a une vocation, hein, ils font quelque chose. Ils peuvent l'utiliser rien que pour eux. Hein, c'est en eux, voilà, c'est pour eux, et voilà, ils en jouissent pour eux-mêmes. Tandis que les dons spirituels, ce sont des dons que Dieu fait après la conversion, et des dons qui ne sont pas pour nous-mêmes, mais qui sont exclusivement pour enrichir le corps de Christ. Faire du bien aux autres, l'utilité commune. Ensuite, on voit les dons spirituels sont donnés librement, mais selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui décide pour nous, pas nous qui choisissons. On peut aspirer, hein, les Corinthiens aspiraient à des dons, c'est bien, mais au final, c'est pas nous. Hein, et peut-être les Corinthiens lorgnaient trop sur certains dons, tandis qu'ils ne se souciaient pas trop d'autres dons. Et c'est le Saint-Esprit qui délivre le don, qui le donne au final. C'est ce qu'il dit, verset 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » On peut aspirer au don pastoral, c'est possible. Hein, voilà, celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente du Seigneur. On peut aspirer au discernement des esprits, aspirer au don de la foi, une belle aspiration ça, hein, aspirer à avoir une foi qui croit et qui avance, hein, avec le Seigneur qui fait des choses extraordinaires. Mais c'est l'Esprit qui accorde ou non selon sa volonté. Paul donne donc une liste différente de dons. Et peut-être je vous encourage à aspirer, hein, parce que peut-être qu'en aspirant à un don, vous allez voir que finalement eh bien, Dieu vous le donne. C'est possible, hein? Aspirez au don. Allez-y. Avancez. Donc Paul donne une liste de différents dons. Son but, ce n'est pas de donner une liste exhaustive de tous les dons. D'ailleurs, on voit qu'il y a une autre liste des dons dans Romains. Et certains dons qui sont dans cette liste-ci ne sont pas dans l'autre. Et certains qui sont dans l'autre ne sont pas dans celle-ci. Donc il n'est pas en train de faire une liste de tous les dons, mais il est plutôt en train de montrer en fait les dons, leur place, et que tous les dons sont importants, par rapport eh bien, au don du parler en langue notamment. Et on discerne deux types de dons, dons de parole, ou dons plutôt de service ou d'exercice. Intéressant, on voit le premier don listé. L'Esprit peut d'abord donner une parole de sagesse. C'est intéressant, hein? On pense à cette épître aux Corinthiens. Ben voilà, peut-être qu'il manquait de sagesse. Hein? Eh bien, le premier don auquel on peut aspirer, c'est le don de sagesse. C'est la capacité à comprendre les Écritures et à les appliquer dans notre vie, à se les approprier, à mettre en pratique la parole, la comprendre et la mettre en pratique. Jacques, dans son épître, nous encourage à demander la sagesse. Il dit, si vous manquez de sagesse, demandez, hein, sans douter. Mais Dieu peut aussi accorder ce don de la sagesse, donc des paroles de sagesse qui vont venir apaiser des conflits, donner des conseils pratiques, dénouer des situations difficiles, défendre la foi. Et on a besoin que Dieu éclaire, hein, et donne cette sagesse. C'est vrai que parfois, eh bien, on se dit, mais cette personne, elle est pleine de sagesse. Elle est de bons conseils, conseils inspirés. Ensuite, l'Esprit peut aussi donner une parole de connaissance. C'est une révélation d'une connaissance qui ne pouvait pas être déduite toute seule si Dieu ne l'avait pas divinement inspirée. Avec la prophétie, Paul a reçu des paroles de connaissance. Il a reçu plein de paroles de connaissance, c'est-à-dire une connaissance qui était donnée comme ça. Il ne pouvait pas l'inventer, hein, il ne pouvait pas le trouver quelque part, c'était révélé. Par exemple, il va dire, « Voici, je vous dis un mystère. » Il a eu la révélation, on a lu tout à l'heure, le mystère de l'Église. C'est une parole de connaissance, ça lui a été révélé d'en haut. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre des Écritures, de la parole de Dieu, de la révélation, où on reçoit une révélation qui vient enrichir la parole de Dieu, mais c'est terminé. Il n'y a plus de parole de connaissance de cette manière, puisque la révélation est achevée. La parole de Dieu est complète. Donc il n'y a pas de nouvelles révélations qui vont venir. Non, tout est contenu dans les Écritures, dans cette parole sainte que nous avons. On va voir ça dans le chapitre prochain, hein, dans le chapitre 13. Néanmoins, dans une autre mesure, une mesure plus faible, ben Dieu peut continuer à donner des connaissances, une parole de connaissance, une connaissance divine qui descend d'en haut et voilà, comme ça, hein, révéler quelque chose. Ça, c'est possible. Et je pensais à Pierre, qui est là, il est sur le toit de sa maison, il crie, il y a cette nappe-là. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. Ben, » comment il peut avoir cette connaissance? Il y a trois hommes en bas, tu peux avoir une entière confiance en eux, pars avec eux sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. Eh bien, voilà, il a reçu ça, comme ça, dans... Kuhn, Alfred Kuhn, dit à ce sujet qu'il peut s'agir d'une connaissance intuitive et surnaturelle de faits du monde visible ou invisible, inaccessible par les voies naturelles. Donc une connaissance, voilà, qui descend, surnaturelle, que nous n'aurions pas pu avoir autrement. Mais Dieu peut aussi donner un don de foi. Alors il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais c'est quelque chose, c'est plutôt pour les croyants. Une fois qu'ils ont cru, une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ, on a la foi qui sauve si on est sauvé, hein. On a cru, donc on l'a. Mais c'est une mesure de foi supérieure qui permet de traverser des choses ou d'accomplir des choses incroyables. Et en pensant à un don de foi, un exemple frappant, c'est Georges Müller. Donc Georges Müller, qui sur peut-être 60 ans, a nourri des milliers, un millier d'orphelins, des centaines d'orphelins, et dans un temps qui n'était pas le nôtre. Mais cet homme avait une foi incroyable, hein, de pouvoir accueillir sans cesse. Et bien parfois, on voit les hommes, on se dit, mais ils ont eu un don de foi, c'est pas possible. Pour se lancer dans une aventure extraordinaire, et croire que Dieu est là, Dieu va le faire. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Ils avaient la foi, et ils l'ont fait. Et Dieu l'a fait. Ensuite, Paul parle du don des guérisons. Alors c'est bien sûr la capacité surnaturelle, hein, à guérir les malades, les infirmes, à chasser les maladies. Pierre, l'apôtre Pierre, possédait ce don, puisque je vous lis cette parole des Actes. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes avoisinantes de Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. C'est important. L'apôtre Pierre, toujours, arrive devant un boiteux, infirme, qui était devant le temple, et à ce moment-là, il lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, le don de guérison, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et en le tenant par la main droite, il le fit lever. au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ça, c'est le don de guérison. Capacité de guérir quiconque en a besoin. Ce don ne se voit plus de nos jours. Si vous connaissez quelqu'un qui a ce don, je veux bien vous le présenter, mais moi, je n'en connais pas. Je ne vois personne qui a ce don aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas guérir et qu'il ne continue pas à guérir. Il continue à guérir. J'ai des témoignages de guérison incroyables, que ce soit de cancer. J'ai le témoignage d'une personne aussi qui avait le sida et qui est libérée. Donc Dieu fait des guérisons. Il continue à guérir. Pas de problème. Mais le don des guérisons, alors là, je ne le vois pas. Ça, non. De même, il parle du don d'opérer des miracles. Donc, c'est la capacité à pouvoir changer les lois naturelles, en fait. Dieu a fait le monde avec des lois, et le monde tourne avec ses lois, mais la capacité d'agir sur ces lois naturelles et de faire quelque chose qui est extraordinaire. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Il a marché sur l'eau, il a multiplié des pains, extraordinaire. Il est dit que Étienne, dans les Actes, fit des miracles et de grands prodiges. Voilà, c'était du même ordre, hein, il a fait des choses éblouissantes. Hein. Paul s'est fait mordre par un serpent et il ne lui fit rien du tout. Voilà. Le venin n'a pas eu d'effet sur lui. Mais le don d'opérer des miracles de cette manière, vous conviendrez de dire, ce n'est pas chose courante aujourd'hui. Un pasteur du Kentucky, s'appelle Jamie Coots, est mort récemment dans une réunion évangélique, parce qu'il a manipulé un serpent. Donc c'est une église où on veut manipuler les serpents. Et donc, déjà en 2012, quelqu'un est mort comme cela. Lui, il est mort comme cela. Qui sera le prochain qui manipulera encore un serpent? Il y a quelques années, il y a un pasteur gabonais qui s'est noyé dans l'estuaire de Como, en face de Libreville. Il a reçu la révélation qu'il pouvait traverser l'estuaire en marchant sur l'eau. Alors, il y avait des fidèles qui étaient là, à qui il avait promis la guérison, et le pauvre homme s'est noyé. Tout à l'heure, je vous citais Georges Muller. Georges Muller a fait des choses incroyables. Il avait le don de la foi, sans aucun doute. Mais c'est intéressant de voir que Dieu ne lui a pas fait multiplier des pains ou du lait. Dieu s'est servi des uns et des autres pour fournir du pain, pour fournir du lait, pour fournir de l'argent. Et le miracle, c'est qu'il y avait toujours la bonne somme au bon moment. Toujours Dieu agissait avec puissance et ses enfants ont toujours mangé à leur faim. Mais Georges Muller n'a pas fait des miracles comme ça, comme Jésus a pu le faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas des miracles ou qu'il ne peut pas faire des miracles. Il fait des miracles. Il y a des miracles. On vit des choses où c'est parfois un miracle. Dieu a agi d'une manière surnaturelle. Mais il n'y a plus aujourd'hui ce don d'une personne qui opère des miracles autour d'elle. Ça, je ne le vois pas. Alors, je sais que certains peuvent ne pas être du même avis. Le premier argument qu'on entend, c'est « Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, éternellement. » Et donc, le Dieu de la Pentecôte, et c'est toujours le Dieu d'aujourd'hui. Et donc, il agit toujours de la même manière. Ça, c'est un argument qui est souvent placé en avant. Mais si vous étudiez les Écritures, vous sondez les Écritures, bien sûr, Dieu ne change pas. Mais on voit qu'il agit différemment selon des périodes de temps. Et ça, c'est une évidence quand vous lisez toute la Bible. Ce serait faux de croire que Dieu a toujours agi avec beaucoup de manifestations miraculeuses au travers des hommes dans toute l'histoire du monde. C'est pas vrai, ça. C'est pas comme ça dans la Bible. On peut dire qu'il y a eu vraiment trois grandes périodes miraculeuses, extraordinaires. La première grande période, c'est de Moïse à Josué, où là, la mer rouge qui s'ouvre, l'eau qui sort du rocher, ils sont gardés de la blessure des serpents, et puis on peut ajouter tous les miracles que Moïse a fait, ou bien Josué dans la conquête, hein, les murs de Jéricho qui tombent, etc. Tous les miracles qui ont eu lieu dans cette période, une période qui dure 65 à 70 ans, où Dieu fait des choses extraordinaires. La deuxième période, où on voit vraiment une période de miracle, c'est Élie et Élisée, où là, extraordinaire, ça n'arrête pas. Les miracles, il y en a plein, des guérisons, ressuscite les morts. De nouveau, une période à peu près 65-70 ans. Et la troisième grande période, c'est la venue du Seigneur, avec les apôtres, à sa suite, qui continuent à faire tous ces miracles, tous ces prodiges. Et de nouveau, une période à peu près de 70 ans, 65 ans. À noter aussi que c'est intéressant parce que Jésus n'a pas fait de miracles pendant les 30 premières années de son ministère. Et après, alors là, il fait plein de miracles. Donc une période où il n'y en a pas, et puis une période où il y en a énormément. Et donc, en dehors de ces 200 ans cumulés, Dieu n'est pas intervenu par beaucoup de miracles et de prodiges faits au travers des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas fait. Mais des personnes qui avaient cette capacité, eh bien, Dieu ne l'a pas accordée. Il s'est manifesté d'autres manières, mais peu ou pas au travers de miracles, hein, par un homme, comme cela. Donc c'est le miraculeux n'est pas la norme en dehors de ces grandes périodes que l'on voit dans les Écritures. Dieu nous dit, au sujet des apôtres, Hébreux 2, verset 4. Il dit que Dieu appuyait leur témoignage, le témoignage des apôtres, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et ce qui est marquant, à chaque fois que Dieu permet qu'il y ait une période comme cela de miracles, de guérison, c'est afin d'appuyer l'autorité de ses serviteurs, de ses envoyés. Il appuie l'autorité afin que les hommes écoutent la parole de Dieu. C'est ça le but. Lorsque Dieu voulait interpeller les hommes et planter en eux une attention par rapport à son message, par rapport aux Écritures, alors Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, les hommes étaient attentifs. Regardez Moïse. Il a dit, mais j'ai la langue embarrassée, etc. Je ne vais pas y arriver. Tes parents ne vont jamais m'écouter. Alors Dieu lui a dit, mais tiens, tu vas faire ça, et tu vas faire ça, tu verras qu'il va écouter. Il ne va pas te rejeter, même si au final, il n'en a fait qu'à sa tête. Donc vous voyez un peu, un miracle pour qu'il écoute ce que Dieu a à dire. J'ai entendu récemment, Johnny Erickson Tada, donc vous savez, celle qui a fait un plongeon à 16 ans, qui est devenue tétraplégique. Donc ça fait 46 ans qu'elle est tétraplégique. Et récemment, elle vient de redonner son témoignage, en tout cas une partie de son témoignage, dans une grande conférence aux États-Unis. Et c'est très touchant parce qu'elle dit qu'un jour, tout est devenu lumineux pour elle, parce qu'elle est passée par beaucoup de souffrances, hein, de luttes. Vous pouvez lire ses livres, elle écrit deux livres, c'est à la fois merveilleux, mais aussi terrible, hein, ce par quoi elle est passée. Mais elle dit que tout est devenu lumineux lorsque le Seigneur lui a permis de comprendre une parole. C'est Jésus qui dit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » C'est pour cela que je suis venu. Cette parole, elle l'a reçue du Seigneur. C'était comme une flèche dans son âme. Elle qui comprenait pas pourquoi Dieu avait permis cela. Et pourquoi, eh bien, Dieu l'a laissée dans cette situation. comme cela. Elle qui a fait les conférences de guérison et qui se retrouvait laissée pour compte, elle ne comprenait pas. Elle se disait, mais où est le Jésus d'autrefois? Celui que l'on voit dans les évangiles. Et elle a reçu cette parole. Afin que j'y prêche aussi, c'est pour cela que je suis venu. Et elle a compris que le but principal de Jésus n'était pas de guérir le corps, mais il était de guérir l'âme, de venir planter la parole dans le cœur afin de transformer l'âme et de guérir intérieurement. Et le but des guérisons, c'était pour que la parole pénètre dans les cœurs. Parce que le plus important, ce n'est pas de guérir physiquement, mais c'est de guérir intérieurement. Et Johnny en a fait vraiment l'expérience. Elle en témoigne. Elle dit, elle est aujourd'hui très reconnaissante pour ce que le Seigneur a permis. J'ai appris là, que non seulement elle a eu donc, cette épreuve de tétraplégie, mais elle a eu aussi le cancer. Elle s'est enchaînée. Elle s'est dit, mais Seigneur, est-ce que c'est pas assez déjà? En plus, le cancer. Mais elle confessait. Elle disait, je suis reconnaissant, Seigneur. Parce que le Seigneur a fait un travail dans mon cœur qui a révélé des choses insoupçonnées en moi, que j'ai fini par confesser. Et le Seigneur a pu commencer à travailler dans mon âme et me sanctifier dans mon âme, ce qui est bien plus précieux que de me rendre la capacité de marcher. Et donc le but de Dieu est de nous guérir intérieurement plutôt que physiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas nous guérir physiquement. Il le fait. Il y a des témoignages de personnes où Dieu les a guéris et Dieu continue à guérir. Mais parfois, il ne le fait pas aussi. Il ne le fait pas automatiquement. Et nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances, nos maladies sont si souvent des moyens que Dieu choisit pour opérer dans notre cœur, pour révéler des choses que l'on ne voyait pas autrement. Et ça les révèle. Et là, il n'y a plus qu'à venir au Seigneur et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je reconnais, je confesse. Sauve-moi, transforme-moi, guéris mon cœur. C'est le plus important. C'est pourquoi ce don, ces dons, ne se voient plus comme au temps des apôtres. On ne les voit plus dans les hommes. On ne peut pas revivre la Pentecôte de la même manière, c'est impossible. Maintenant, Dieu peut le faire, et il le fait. Mais en réponse à la prière, par sa grâce, souvent, on entend que Dieu a fait quelque chose d'incroyable dans la vie d'une personne, et la personne s'est convertie. C'est quelque chose, ça. Elle guérit, et elle reçoit la parole. Donc, de nouveau, ce lien, guérison, mais planter la parole, changer la vie au travers des Écritures. Je continue avec la liste des dons. Paul dit que l'Esprit donne à un autre la prophétie. La prophétie, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Un aspect de la prophétie, c'est l'idée de parler de l'avenir. Donc le prophète reçoit une révélation et il va parler de l'avenir, mais c'est rien qu'un aspect de la prophétie. Les prophètes prêchaient la parole qu'ils recevaient directement de Dieu, tout en ajoutant au fur et à mesure les révélations qu'ils recevaient de Dieu, ils prêchaient, ils recevaient. Ce don-là, en ce qui concerne la révélation, il est terminé. Puisque, encore une fois, la révélation est achevée. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter de nouvelles révélations. Donc les Écritures nous ont donné toute la révélation de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Donc, on verra ça de nouveau dans le chapitre prochain. Et on peut dire donc que le don de prophétie tel que pratiqué au temps des apôtres a cessé. Un jour, un frère m'a dit, « Ah, mais c'est incroyable ce que tu as dit dans ton message, tu es prophète !» Je ne pense pas que je sois prophète. Je pense qu'on peut être inspiré, que Dieu peut, voilà, il conduit, il oriente, il amène quelqu'un à dire une parole, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est prophète. Alors, je veux mettre des guillemets aussi et dire que Dieu peut toujours donner une révélation de quelque chose, même de quelque chose qui va se passer, c'est possible. dans un temps particulier, pourquoi pas. Mais c'est l'exception, c'est plus la règle. Les prophètes, comme autrefois, non, ça, on ne les voit pas. Du temps de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Et moi, c'était la parole de Dieu qui sortait de leur bouche. Agabus, dans le livre des Actes, dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit ». Et c'était la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Mais ça, ça n'a plus lieu. Ça n'a plus lieu parce que la parole, elle est là. Donc, je peux reprendre les paroles et les donner, mais ça ne fait pas forcément de moi un prophète. Ensuite, l'Esprit donne également le discernement des esprits. Donc, c'est la capacité à pouvoir reconnaître ce qui vient du malin et ce qui vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment utile en sachant qu'il peut y avoir parfois des loups qui sont déguisés en brebis et qui viennent dans les églises et qui déciment le troupeau. J'ai des histoires comme ça terribles. Des personnes qui ont eu la parole et qui ont décimé le troupeau. Ils ont fait ils sont détruits. C'est le diable qui s'est immiscé et c'est important d'avoir le discernement des esprits, d'avoir ce don. Il faut avoir le don dans l'Église pour savoir discerner s'il y a quelque chose. Il y a une usurpation, il y a un mimétisme, une tromperie. L'apôtre Pierre a dit à Simon le magicien, il a vu que c'était un opportuniste en fait. Et il l'a dénoncé dans le livre des Actes. Ce n'était pas un homme qui était sincère et repentant. Ensuite, Paul ajoute que l'Esprit peut donner à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, on en a parlé tout à l'heure, la capacité à parler des langues que l'on n'a pas apprises et la capacité à interpréter ces langues que l'on n'a pas apprises. Remarquez que c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, dans la liste des dons, les met tout à la fin. Alors que les Corinthiens, eux, les auraient mis tout en haut, Paul commence par la sagesse. Et puis, à la fin, il met le don des langues. C'est tout un symbole pour dire, mais regardez ce qui est important. Et cessez de mettre tant d'importance sur ce don. D'autres listes de dons, donc il y a une autre liste qui est dans Romains 12, on ne va pas la prendre, mais je vais vous citer brièvement tous les dons, comme ça on les aura survolés. Il dit, donc je ne reprends pas ceux qui sont ici, mais celui qui est appelé au ministère, donc que celui qui s'est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc le ministère ici, ce n'est peut-être pas simplement la chose comme on l'entend, comme le ministère pastoral, mais c'est celui qui est appelé pour le service, pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, faire quelque chose. C'est diaconia, encore une fois, service. Alors, si quelqu'un reçoit un service particulier, bien qu'il le fasse comme pour le Seigneur de tout son cœur, qu'il serve le Seigneur. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, celui qui enseigne, bien sûr, c'est pasteur, docteur. Les apôtres se sont consacrés au ministère de la parole, est-il dit. Et certainement, il y a un don pour enseigner les Écritures. Paul parle du don de l'exhortation. Donc certains ont une capacité à vous relever chaque fois que vous êtes tombé. Ils vont avoir les paroles, ils vont réussir à vous exhorter, à vous fortifier, à vous aider à vous relever et à avancer. C'est merveilleux d'avoir ce don. Il est parlé encore du don de la libéralité, la capacité à offrir, donner, enrichir les autres sans rien attendre en retour, mais de manière gratuite, gracieuse. Il est parlé de celui qui préside et qui le fasse avec zèle. Donc il y a plusieurs avis sur ce don. On le verrait facilement finalement comme celui qui préside à une réunion. Et c'est vrai que certains vont avoir plus de facilité, plus de dons, un don pour cela. Une capacité à communiquer, à conduire, à diriger, à protéger. Et c'est, le don englobe tout ça, en fait. Il y a aussi l'idée de surveiller, de veiller, comme un berger qui garde. Et certainement, celui qui va conduire une réunion, il veille d'une certaine manière à la bonne direction, il en prend soin, même si ce que nous faisons aujourd'hui, on ne sait pas comment c'était fait à l'époque, peut-être que ce n'est pas exactement pareil, mais en tout cas, il y a l'idée de présider, donc de conduire dans une direction, et c'est un don. C'est Dieu qui donne ce don. Et puis Paul parle enfin dans cette dernière liste de Romains que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et on peut y voir la capacité à aller aider tous ceux qui sont dans le besoin, être prêts à servir encore, mais plutôt dans cette direction-là. Donc voilà, une liste sommaire des dons. Ça veut dire qu'il y en a certainement d'autres. Hein. Il y a plein de dons que Dieu accorde gracieusement. Je vais terminer avec ces versets, les versets 11 à 13. 1 Corinthiens 12, 11 à 13. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On voit ici un seul esprit qui opère toutes ces choses dans le cœur des chrétiens. Et nous sommes, nous qui croyons, chacun un membre du corps de Christ. Jésus est la tête et nous, nous sommes les membres. Donc c'est lui qui conduit, hein, qui dirige, chacun pour sa part. Et le Saint-Esprit, il est un petit peu comme le lien entre nous. C'est le Saint-Esprit qui établit le lien entre nous, qui fait que on est un corps, on est une même famille, on est ensemble, on se comprend. On a le même esprit, on a la même vision, le même désir d'avancer ensemble, le même Seigneur, le même amour pour le Seigneur. On veut lui plaire. C'est merveilleux, ça. C'est un corps qui avance. Hein? Un corps qui avance. À la Pentecôte, Dieu a baptisé ses enfants par l'esprit. Ça signifie que là, dans cet instant, ils sont devenus une même famille, un même corps. Ça y est, le lien était fait, hein, ils étaient le corps de Jésus-Christ. Et quand on croit en Jésus-Christ, finalement, on entre dans ce corps qui a été baptisé le jour de la Pentecôte. On est intégré au corps. Et donc, d'une manière personnelle, bien sûr, on reçoit le Saint-Esprit, hein, on est baptisé en quelque sorte, mais c'est plutôt une intégration au baptême qui a déjà été donné lors de la Pentecôte. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'enthousiasmant de savoir que Dieu veut équiper chacun, que Dieu donne des choses à chacun, des dons à chacun. Il veut une complémentarité qui est merveilleuse pour que ce soit comme une machine qui est bien huilée et que chacun puisse avoir sa part, que chacun puisse intervenir, faire quelque chose et voilà, que chacun soit à sa place. Et le corps avance et la tête est bien conduite. C'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Une église qui est en marche, qui fonctionne. C'est ce que Dieu veut pour l'église locale. Mais pour ça, eh bien, c'est bien sûr apprendre à vivre ensemble, apprendre à suivre le chef, Christ, dans la communion avec le Seigneur. Il veut nous rendre utiles, il veut nous rendre complémentaires, que chacun puisse prendre sa part et qu'on puisse s'imbriquer les uns dans les autres. Et avancer ensemble, dans la soumission, dans l'obéissance au Seigneur.